France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 13 morts et la raison d'État. Le 15 février 1989, à Toulon, une explosion ravage la maison des Têtes, un immeuble du centre-ville. Elle fait 13 morts et 32 blessés. Le lendemain, la piste du gaz s'impose. Une semaine après, on évoque le suicide d'une locataire du troisième étage. Un an plus tard, la justice présente cette hypothèse comme une vérité établie, mais que n'acceptent pas les familles de victimes. L'enquête présente trop d'incohérences, d'omissions, d'erreurs, de non-dits. Alors les mêmes familles lancent des enquêtes privées, découvrent des faits troublants que jamais la justice ne prend en compte, comme si elle voulait protéger des intérêts cachés. Mais quels intérêts ? L'un des avocats des familles parle de raison d'État, de calcul diplomatique et politique. Selon les proches des victimes, c'est une erreur de tir d'un navire américain qui aurait causé l'effondrement de l'immeuble. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Max Clanet. Il a mené une longue contre-enquête qu'il détaille dans son livre « Blessures de guerre, comment l'affaire de la maison des Têtes a été étouffée pour raison d'État », livre paru en 2014 aux éditions Le Spot. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire et rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il était 14h30 cet après-midi à Toulon, à cause sans doute d'une explosion due au gaz. Un immeuble de 4 étages s'est donc écroulé comme un véritable château de cartes. Au rez-de-chaussée, il y a un supermarché, heureusement fermé à cette heure-là. Bilan, un mort, des dizaines de blessés et plusieurs personnes qui seraient encore sous les décombres. En ligne, André Brunetti.
Alors que la nuit tombe, les sauveteurs viennent d'installer un hôpital de campagne dans la mairie et un groupe électrogène pour éclairer les ruines qui s'entassent sur des dizaines de mètres cubes. Ils vont passer la nuit à sortir une à une les poutrelles et les pierres des décombres pour essayer d'en extraire délicatement les survivants. À Toulon, André Brunetti, Radio France Provence pour France Inter.
Ce mercredi 15 février 1989, lorsque s'ouvre le journal de 19h de France Inter, plus de 400 sauveteurs fouillent les décombres. Pour l'instant, comme on vient d'entendre, les secours évoquent une seule mort, celle de Sylvie, 13 ans. Mais comment pourrait-elle être la seule quand on voit la mât de gravats ? Un policier, cité par Nice Matin, ne se fait guère d'illusions. Des morts, il y en aura entre 3 et 15, plutôt 15. En fait, 13 vies sont emportées par l'explosion qui a soufflé et réduit en poussière l'immeuble du XVIIIe siècle, situé à une trentaine de mètres de la mairie de Toulon. 32 blessés également. Dans un article, au lendemain de la catastrophe, le journaliste de Nice Matin écrit « Il était donc 14h26 quand un souffle de mort a balayé la place de la poissonnerie, la place à l'huile et les rues adjacentes. Vitres fracassées jusqu'au 8e étage de la mairie, passants renversés, nuages blancs sales. Et un immeuble de 5 étages qui s'effondre comme un château de cartes. Une bombe, un bombardement, c'était Beyrouth. » Bien sûr, dans la capitale libanaise, en 89, ce sont des milliers de bâtiments qui sont détruits. À Toulon, un seul, oui. Mais les images de gravats qu'on fouille, les corps qu'on extrait, se ressemblent beaucoup ce jour-là. La maison des Têtes, qu'on appelait ainsi à cause des masques disposés sur la façade, n'est plus qu'un amas de pierres et de poutres, dont la hauteur dépasse de loin la taille des hommes qu'on voit intervenir. Des hommes qui fouillent l'espoir, pierre après poussière, comme l'écrit joliment Nice Matin. Dans les heures qui suivent, l'explosion de l'immeuble, le préfet affirme, sans trop de réserve, c'est le gaz. Alors partout dans la ville, on répète, c'est le gaz. Ce qui ravive des souvenirs. En 82, dans le centre de Toulon, une fuite avait provoqué une déflagration. Un mort et 13 blessés. Alors oui, le gaz paraît la cause possible. Même si du côté de GDF, on est beaucoup plus réservé que le préfet.
Alors on cherche les responsabilités et on se tourne du côté de Gaz de France. Même si rien n'a encore été prouvé, pour beaucoup, seule une fuite de gaz peut avoir provoqué une telle explosion.
Ce dont je suis certain actuellement, c'est de l'état de mes réseaux à l'endroit où nous sommes ici. Nous n'avons pas de fuite sur nos réseaux.
Une information judiciaire a été ouverte pour tenter de déterminer les causes du sinistre et la responsabilité éventuelle de Gaz de France. Pour le reste, les recherches doivent se poursuivre encore tard ce soir, ici, même si les chances de retrouver des survivants sont désormais très minces.
Pour l'instant, il n'y a ni polémique, ni doute, ni débat. L'heure est à l'identification des victimes retrouvées et à la recherche de celles qui sont encore sous les décombres. Le maire salue le courage et la détermination des sauveteurs, loue la solidarité des Toulonnais qui participent à la collecte de dons en faveur des sinistrés et se rend personnellement à l'hôpital voir les blessés. Dans la presse, les jours qui suivent, les articles évoquent avec toujours plus de consistance la piste du gaz. La faute à pas de chance. Alors, les morts de la Maison des Têtes marquent peu l'actualité. En cette mi-février 89, les journaux titrent d'abord sur la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini contre l'écrivain Salman Rushdie, sur l'affaire Péchinet ou sur le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. L'explosion de Toulon n'est qu'un fait divers, après tout, et il ne dit pas grand-chose d'autre que le danger potentiel du gaz. Un an après le drame, le 6 février 90, l'experte mandatée par la justice rend son rapport. L'explosion est très vraisemblablement due au gaz au troisième étage, écrit-elle. On va finir par le savoir. Précision toutefois, l'enquête pointe vers la locataire d'un appartement de 60 mètres carrés, Annette Wasserstein. Dépressive, cette adjudant-chef à la retraite de 61 ans aurait ouvert le gaz chez elle. Voici comment elle est décrite dans le dossier judiciaire.
Annette Wasserstein ne supportait plus les désagréments de l'immeuble et elle était très affectée de ne pouvoir obtenir un logement dans les HLM de la partie rénovée de la vieille ville. La veille de l'explosion, elle notifiait à son kinésithérapeute l'arrêt des séances prévues pour plusieurs semaines. Elle avait par ailleurs restitué du matériel de reliure à l'école des Beaux-Arts en disant qu'elle ne serait pas là le 21 février, date à laquelle il était convenu qu'elle rende le matériel. Le 14 février, toujours, elle avait déclaré au syndic de l'immeuble, venu constater l'humidité de son appartement, je cite, « autant crever que de vivre dans cette saleté ».
Voilà donc la version de la justice. Une vieille dame suicidaire ouvre le gaz durant plusieurs heures chez elle et emporte dans la mort 12 autres personnes. Affaire classée, les familles peuvent faire leur deuil et notre histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que cette version simple, voire simpliste, ne satisfait pas les familles. Première chose étrange, avec ce suicide au gaz, personne n'a rien senti. Les agents de GDF, cités dans la presse le lendemain, évoquent plus une odeur de poudre que de gaz. Dans le quotidien local Varmatin, le directeur départemental de DFGDF, Jacques Perrusaube, tient à mettre les choses au point.
D'abord, personne n'a senti l'odeur caractéristique du produit que nous ajoutons au gaz pour rendre une fuite mieux décelable. Ensuite, le gaz est plus léger qu'air, il ne peut que monter. Et les dégâts commis au premier étage ne s'expliquent donc pas. Enfin, il n'y a pas eu d'incendie. Au cours de ma carrière, j'ai déjà connu plusieurs explosions de gaz. Je sais comment ça se passe, et je sais ce que l'on constate. Il y a toujours un incendie. On a aussi dit que la surconsommation de 43 mètres cubes de gaz au compteur de Madame Wasserstein était un indice important. Or, nous avons découvert un autre compteur affichant une surconsommation de plusieurs milliers de mètres cubes. C'est évidemment l'explosion qui a déréglé les numéros.
Même le rapport judiciaire le dit. Nul n'a senti d'odeur de gaz dans les heures ou les jours précédant l'effondrement. Et les responsables de GDF confirment qu'il n'y a eu aucun appel relatif à une fuite éventuelle. Quant à Annette Wasserstein elle-même, ses amis ne la décrivent pas du tout suicidaire. Au contraire, vive, alerte, voyageuse, avec un caractère bien trempé. Dans Varmatin, ses amis s'indignent. Pour nous qui l'avons si bien connue, qui nous souvenons d'elle avec une grande émotion, il est parfaitement scandaleux qu'on la présente aujourd'hui comme une vieille femme dépressive. C'est une insulte à sa mémoire, une indignité. Elle effectuait de grands voyages, lisait beaucoup, écoutait de la musique et faisait son footing chaque matin. Est-ce là le comportement d'une personne âgée dépressive? Les enquêteurs expliquent que la retraitée avait annulé plusieurs rendez-vous prévus ce jour-là. Ce qui démontre, selon eux, qu'elle avait bien l'intention de mettre fin à ses jours. C'est vrai, Annette Wasserstein a bien annulé des rendez-vous, mais pas tous. Elle devait aller chez sa dentiste pour un détartrage. Elle ne l'a pas annulé. Un artisan devait passer à 14h30 pour la pose d'un papier peint dans sa cuisine. Tout était organisé. C'était une femme très militaire, raconte cet artisan au journaliste Max Clannet. Une femme pas dépressive du tout, et pas désagréable non plus d'ailleurs. Alors pourquoi celle qui a planifié son suicide, selon la version officielle, aurait-elle annulé certains rendez-vous et pas d'autres? Une semaine après l'explosion, dans un article de Nice Matin, on lit ceci. Madame Annette Wasserstein présentait des traces de brûlures caractéristiques. Mais caractéristiques de quoi? Visiblement, le quotidien est mal informé. L'autopsie pratiquée n'évoque pas de brûlures caractéristiques. Au contraire, en voici le compte-rendu.
Les examens médico-légaux et autopsie mettent en évidence sur le corps d'Annette Wasserstein, au niveau des membres inférieurs et plus particulièrement du visage et de la chevelure, des altérations lésionnelles évocatrices de brûlures superficielles. Au niveau des faces dorsales des deux mains, des lésions similaires étaient également observées.
Bon, sans dire qu'il est quasiment intact, le corps d'Annette Wasserstein paraît quand même peu marqué par l'explosion qui se serait produite chez elle. Elle ne présente pas de brûlures profondes, ni internes, comme ça arrive lors de l'explosion au gaz. Alors qu'au premier étage, dans le cabinet de prothèses dentaires, où trois personnes sont mortes, le corps de l'une d'elles présente, toujours selon les médecins légistes, dans leur jargon infernal, un ensemble de lésions polytraumatiques considérables dont certaines présentaient des caractères pouvant être de nature à permettre d'évoquer un fait explosif survenu à proximité extrême de la victime. En français intelligible, ça veut dire que l'explosion aurait moins endommagé le corps de la suicidée du troisième que celui d'une victime située au premier. Alors pourquoi, malgré ces incohérences majeures, la justice se focalise-t-elle sur le suicide, le gaz, le troisième étage, la retraitée? Alors bien sûr, d'autres pistes ont été explorées. Et la presse, dès le lendemain de la catastrophe, évoquait d'autres hypothèses. D'abord, celle d'une erreur de manipulation d'un produit dans le laboratoire de prothèses dentaires du premier étage, où des bouteilles d'acétylène et d'oxygène étaient utilisées. Et puis, le jour de l'explosion, des employés travaillaient avec des becs benzène. C'est un survivant qui a passé 10 heures sous le décombre qui en témoigne. Quand il se souvient des faits ce jour-là, il affirme avoir entendu sa collègue Alexandra crier juste avant l'explosion. Il s'est alors recroquevillé, d'instinct, avant de sentir dans son dos un souffle venu de l'extérieur. Pour lui, sa collègue a vu ou entendu quelque chose, d'évidence, pas lié à l'utilisation des becs benzène. Autre théorie, toujours évoquée par la presse le lendemain, un attentat. Parce qu'un an avant le drame, les fenêtres des bureaux du deuxième étage, là où est installée l'étude de l'huissier Jacques Maman, ces fenêtres ont été brisées par des coups de feu. Les auteurs, non retrouvés à l'époque, auraient-ils voulu monter d'un cran dans le cycle de vengeance? Et les Toulonnais se souviennent que, 3 ans avant la Maison des Têtes, 3 militants d'un groupuscule d'extrême droite s'étaient fait sauter, par erreur, avec une bombe qu'ils voulaient poser dans les locaux de SOS Racisme. Après vérification, aucun colis n'a été livré dans l'immeuble entre le 13 et le 15 février. Ont été soulevés comme hypothèse également une secousse sismique, un effondrement dû à la vétusté, une escroquerie à l'assurance ou l'explosion de munitions puisque certaines ont été découvertes intactes dans les décombres. Mais à chaque fois, rien de probant, non, rien qui ne puisse instiller un doute, pas d'indice, pas d'autre conclusion que c'est le gaz à cause d'une dame dépressive et suicidaire, on connaît la musique. Mais revenons un instant sur le témoignage de cet apprenti du laboratoire de prothèses dentaires qui a passé près de 10 heures sous les décombres. Voici ce qu'il déclare 10 ans après au journal Humanité.
La juge d'instruction m'a convoqué plus d'un an après l'ouverture de l'enquête. Elle m'a dit qu'il ne fallait plus contredire la thèse du gaz, et elle m'a menacé. Si vous continuez à vous exprimer dans la presse, vous risquez un procès. C'était incroyable, j'étais une victime et je devenais coupable. Mais de quoi? Durant tout l'entretien, elle ne m'a pas regardé une seule fois dans les yeux, je suis sorti complètement traumatisé. J'avais le sentiment d'être au cœur d'une affaire qui me dépassait, et puisque je n'étais pas mort, j'étais devenu un témoin gênant.
Alors résumons. 1. 13 personnes sont mortes et 32 ont été blessées dans cette explosion qui serait due au gaz, bien que personne n'en ait senti l'odeur, y compris les pompiers. Deux, l'explosion aurait été provoquée, selon la justice, par une retraitée suicidaire que tous ses proches décrivent comme tout sauf dépressive. 3. Cette explosion aurait eu lieu au troisième étage alors que les constatations et les autopsies pointent vers le premier étage comme épicentre de l'explosion. Alors les questions sont légitimes. D'abord, pourquoi la justice s'acharne-t-elle à désigner Annette Wasserstein comme coupable idéale quand tout démontre qu'elle n'a rien à voir dans l'explosion? Ensuite, pourquoi la justice s'acharne-t-elle à désigner le gaz comme cause de l'explosion? Enfin, pourquoi cette même justice veut-elle situer coûte que coûte la déflagration au troisième étage quand tout démontre qu'elle a eu lieu au premier? Maintenant que ces questions sont posées, il faut s'intéresser aux bizarreries du dossier. Les rapports d'experts à la légèreté confondante, les disparitions de pièces essentielles et l'ombre de la raison d'État.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche veut se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Cauchy. Calamity Jane. Jane. West. West. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le kill.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la maison des têtes, 13 morts et la raison d'État.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
On pense qu'on a affaire à une simple, tragique mais dramatique, mais une simple histoire d'explosion au gaz. Et puis très vite apparaissent des choses extrêmement troublantes et même inquiétantes. Comme par exemple la disparition de certains éléments qui auraient pu dans cette affaire apporter des preuves capitales. Et puis il y a aussi autre chose extrêmement troublant, c'est le rapport fait par le laboratoire de la police scientifique de Marseille. Quand on lit ce rapport, on remarque, premièrement, que le travail a été bâclé. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des approximations, des erreurs. Eh bien, on est amené à penser que dans cette affaire, on est face comme à une machination, comme si on ne voulait pas que la vérité se sache.
Cette charge contre l'enquête judiciaire sur la Maison des Têtes est signée par un journaliste de France 3 Méditerranée, Robert Papin, en 1993. Et je reprends certains de ces mots. Disparition d'éléments, travail bâclé, machination. Alors, arrêtons-nous sur ces éléments qui ont disparu. Une semaine après la catastrophe, Jacques Baille et son épouse réclament à la morgue les vêtements que portait leur fille, Alexandra. Elle travaillait au premier étage dans le labo de prothèses dentaires. Voici comment Jacques Baille raconte cette histoire en juin 93, lors de l'émission de France 3 Enjeux Méditerranée.
Ma femme a insisté, elle a voulu absolument récupérer les vêtements de notre fille. C'était des reliques, je veux dire, c'était affectif. Et puis à la morgue, on nous dit, mais vous savez, il y a des flics en civil, ce sont ses propres propos, il y a des flics en civil qui sont venus et ils ont emmené les vêtements. On a trouvé ça bien naturel. Alors, lorsque la cellule de crise mise en place par la municipalité de Toulon s'est rapprochée de nous en disant, est-ce qu'on peut vous aider? On a dit, oui, vous pouvez nous aider, on peut retrouver ces vêtements. Et puis, quelques jours après, à la mairie de Toulon, on nous a fait savoir qu'il était impossible de récupérer ces vêtements parce qu'ils ne se trouvaient ni à Toulon, à la police donc de la ville, ni à Marseille, à la police scientifique, et que finalement, ces vêtements, ils étaient nulle part.
Pour 5 des corps envoyés à la morgue, les vêtements ont disparu. En majorité, ceux des victimes du premier étage. Au terme de l'enquête qu'il a menée, après avoir croisé ses sources et enregistré plusieurs témoignages, le journaliste Max Clanet est formel. « Des gens, écrit-il, ont déshabillé les corps avant les autopsies et ont soustrait les vêtements. Ceux-ci ont ensuite été incinérés. » Or, les vêtements sont importants pour l'enquête. Ils peuvent révéler des traces, des microparticules, garder une odeur. Détail cocasse. L'un des experts mandatés par la justice note noir sur blanc dans un rapport que les vêtements d'Alexandra Baille ne comportaient aucune trace de combustion ou de fusion, alors que ces vêtements avaient déjà disparu. Autre disparition tout aussi inquiétante pour la conduite de l'enquête, les gravats. Un témoin relève que le jour de l'explosion, moins d'une heure après l'effondrement de l'immeuble, des camions bennes étaient déjà sur place. Dans un rapport rédigé un an après les faits, une experte judiciaire explique qu'elle s'est rendue à deux reprises dans une décharge de l'agglomération toulonnaise, la décharge dite des Bonnes Herbes, un ancien chantier de la marine. Les déblais de la catastrophe, constate-t-elle, ont été répandus sur une trop grande distance pour être repérés. En clair, impossible de déterminer quel morceau de pierre, de brique, de plâtre ou de quoi que ce soit vient de la Maison des Têtes. En résumé, entre les vêtements et les gravats, des éléments essentiels pour connaître la vérité ont disparu ou ont été éparpillés de telle façon qu'il est impossible de les analyser. Autre détail troublant, l'odeur qui enveloppait l'immeuble effondré. On sait, on l'a vu dans la première partie de ce récit, personne n'a senti le gaz, ni dans l'immeuble, ni aux abords. On sait que des agents GDF arrivés très vite sur les lieux et cités par la presse le lendemain de l'explosion ont parlé d'odeur de poudre plutôt que d'odeur de gaz. Et quand elle serre le corps de sa fille contre elle, la maman d'Alexandra Baille est submergée par une odeur de poudre. Autre témoignage en ce sens, celui d'André Brunetti. La correspondante de Radio France à Toulon est la première journaliste arrivée sur place. Et voici ce qu'elle déclare en juin 93 sur France 3.
Il y avait encore un nuage de poussière, une fumée irrespirable et surtout, je tiens à le dire, une odeur impressionnante d'explosifs et de poudre. Et je peux le dire puisqu'ici même, à FR3, on est près du Palais des Congrès de la Foire de Marseille où il y a eu un attentat lors de la foire de 85 en septembre. Et on avait été aussi les premiers à se rendre sur les lieux, puisqu'on est à quelques centaines de mètres, même pas. Et je peux affirmer que c'était exactement la même odeur. Or, je n'ai pas d'autres éléments de comparaison et je ne peux la confondre avec rien d'autre. Depuis le début, on veut nous faire croire ou on veut faire croire qu'il s'agit de gaz. Moi, je ne suis que journaliste, je n'ai pas intérêt à ce qu'une thèse plutôt que l'autre prévale. Donc, moi, j'affirme simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, surtout l'odeur d'explosifs et de poudre.
Et pourquoi la justice balaye-t-elle ces témoignages? Les familles de victimes ne comprennent pas, tout comme elles ne comprennent pas le jeu des experts nommés dans cette affaire. La première, Jacqueline Quick, écrit par exemple dans son rapport remis à la juge d'instruction un an après, qu'elle constate la présence de petits bouts de métal avant de noter plus loin qu'il n'a été retrouvé aucun élément métallique. Allez comprendre. Autre reproche fait à cette experte pourtant chevronnée de la police scientifique de Marseille. Les conditions d'analyse de certains prélèvements. Elle a utilisé, note le journaliste Max Clanet, des réactifs obsolètes ou des produits corrosifs qui ont détruit des prélèvements et empêché de procéder à de futures contre-expertises. Elle disposait pourtant à Marseille d'un outil précis, sûr et non invasif, un microscope à balayage électronique. Autre expert nommé, Pierre Lemaire. Il entre dans le dossier un mois après l'explosion et se rend à Toulon presque cinq mois après. Visiblement, lui-même se demande ce qu'il pourrait apporter à l'enquête, selon Jacques Baille, le père d'Alexandra.
Monsieur Lemaire m'a dit, mais monsieur Baille, il m'a reçu pendant 5 heures à Bordeaux dans son bureau. Il me dit, on m'a prévenu un mois après. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse un mois après? J'appelle l'affaire de Toulon, la stèle de Toulon. Quand je suis arrivé au mois de juin, mais je pouvais venir en août, ou même en septembre. Et vous avez vu autant de choses, monsieur Clerc, 4 ans après, ce qu'en a vu Lemaire 4 mois et demi après. Pensez bien qu'on avait tout déblayé. Quand je l'ai rencontré, Lemaire, il m'a dit, il faut être là, immédiatement. Je voudrais sentir les corps, je veux voir ce qui s'est passé. On le prévient à moi, c'est terminé.
Il y aura encore d'autres experts nommés par la justice. Les derniers se voient donner 7 mois pour rendre leur rapport. Ils ne le feront qu'au bout de 3 ans. Sans être venus à Toulon, sans avoir parlé aux victimes, rescapés, aux policiers, aux secouristes et sans avoir le dossier judiciaire complet. Ça commence à faire beaucoup tout de même. Beaucoup de négligence, beaucoup d'erreurs pour qu'on ne puisse pas un instant penser à un caractère intentionnel. D'ailleurs, lors d'une interview, l'un des avocats des familles, Antoine Comte, le dit avec véhémence. À chaque demande d'acte que nous faisions, la justice nous répondait par un refus. Refus, puis refus, et encore refus. À partir du moment où il y a tant d'inertie, ce n'est plus une faute, c'est autre chose. C'est une volonté de ne pas ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Il y a une raison d'état derrière ça. Alors, les familles mandatent un expert privé, Loïc Loribot. Dans les années 80, ce scientifique est une pointure, régulièrement sollicité par la gendarmerie. C'est l'un des pionniers, en France, de la microanalyse. Son laboratoire est l'un des premiers à s'équiper de microscopes à balayage électronique. En décembre 92, il présente ses conclusions.
J'observais des échantillons provenant du premier étage, notamment les cheveux d'une des victimes et les bagues que portait une autre victime. Et ces échantillons se sont avérés littéralement saupoudrés de résidus de charges pyrotechniques, de toutes petites particules donc provenant d'une poudre.
L'expert a donc analysé deux mèches de cheveux d'Alexandra Baille et deux bagues de Jean-François Torizano, tous deux, travaillés au premier étage dans le cabinet de prothèses dentaires. Et il écrit, à propos de ces très grands nombres de résidus d'explosifs, qu'ils ne peuvent être expliqués que par une explosion à proximité immédiate des personnes. Ribot effectue plus tard des prélèvements de peau sur Wilfran Dermant, le jeune homme rescapé du premier étage. Il y décèle la présence de titane. Le titane, à cette époque-là, n'est pas encore utilisé par les prothésistes dentaires. Il est employé, note l'expert, dans la fabrication de certains types d'obus et de missiles. Et il conclut, la présence abondante de cet élément au niveau d'une blessure punctiforme conforte l'hypothèse d'une explosion due à un projectile du type mentionné ci-dessus. En voilà une piste nouvelle, celle d'un projectile militaire, d'un accident de tir. Et là, forcément, on est dans une autre dimension. Eh bien, que fait la justice ? Rien. Elle balaye les résultats de Loïc Le Ribeau, tout en notant qu'ils sont fiables, et maintient la version de l'explosion au gaz due au suicide de la vieille dame du troisième étage, on connaît la musique. Pas étonnant dans ces conditions qu'un non-lieu soit définitivement prononcé en 1995. L'explosion de la maison des têtes est désormais une non-affaire et la vérité demandée par les familles importe peu. Alors on imagine l'abattement, la colère des proches des victimes. On imagine combien il peut être long et difficile de se relever après tant d'épreuves, de refus, de déni. Pourtant, 23 ans après l'explosion, en 2012, de nouveaux prélèvements sont confiés par les familles à un expert des matériaux et polymères. La science a progressé, de nouvelles technologies permettent de découvrir des résidus de matériaux rares, du barium notamment, et du tungstène. Oui, des éclats de tungstène en grande quantité, écrit le correspondant régional du Monde. Un métal lourd qu'on ne trouve que très rarement. Il entre dans la composition de nombreux explosifs. Alors, que s'est-il vraiment passé ce 15 février 1989 à 14h26 ?
D'habitude, forces navales et terrestres, françaises et américaines, effectuent leurs manœuvres séparément en Méditerranée. Il y a deux ans, les hauts commandements militaires des deux nations ont projeté de réaliser un exercice en commun sur la Mare Nostrum. Cet exercice a eu lieu, il a bien eu lieu la semaine dernière. 21 navires, dont 3 porte-avions, 14 000 marins, aviateurs et fantassins. Le nom de cette opération amphibie, FINIA 89.
Fin février 89, France 3 diffuse ce reportage sur FINIA 89, un exercice militaire franco-américain qui s'est achevé le 14 février. Le lendemain, jour de l'explosion de la Maison des Têtes, l'un des navires engagés, l'USS Austin, quitte les eaux françaises. Aurait-il, lors d'une phase de réarmement, pu déclencher par erreur un tir de missile ? Un témoin, retrouvé par l'Humanité, raconte ainsi qu'il a vu dans le ciel, au-dessus du centre-ville de Toulon, une sorte d'éclair, un trait, un éclair fluide qui va en diminuant d'intensité avant de ressentir une énorme explosion 3 secondes plus tard. Varmatin cite d'autres témoins qui évoquent, eux, un sifflement dans le ciel ou un éclair lumineux. Il aurait fallu un incroyable concours de circonstances balistiques pour qu'un missile tiré depuis la mer frappe le premier étage de la Maison des Têtes, tant elle est entourée d'immeubles plus hauts qu'elle, notamment la mairie de Toulon. La thèse n'est pas évidente, mais pas impossible non plus. En tout cas, la marine française dément tout incident de tir, qu'il soit français ou américain. Difficile de la contredire sans document. Et toutes les archives militaires concernant l'explosion ne pourront pas être déclassifiées avant 2089. En attendant, si je puis dire, la Maison des Têtes a été reconstruite à l'identique au milieu des années 90. L'un des masques qui ornait la façade d'origine a été sauvé des décombres et replacé sur un mur. Juste au-dessous, une plaque mentionne l'explosion et les 13 morts. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que les familles des victimes réclament toujours la vérité. Au jour de la libération, la mère d'Alexandra Baye confiait ceci. Nous sommes prêts à tout entendre, tout comprendre. Qu'on nous dise qu'il s'agit d'une erreur, d'un missile égaré, tout. Mais nous avons absolument besoin de la vérité, car sans elle, nous ne pouvons faire notre travail de deuil.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'explosion de la Maison des Têtes à Toulon, dont nous parlons avec notre invité, que nous avons cité plusieurs fois dans le récit, le journaliste Max Clanet. Bonjour.
Bonjour.
Donc, journaliste, auteur d'une longue contre-enquête sur cette affaire, comment en êtes-vous venu à vous y intéresser ?
Alors, en 2010, j'ai été contacté par les familles qui savaient que j'avais travaillé sur des affaires similaires et qui voulaient que je reprenne seul l'enquête. Elles considéraient effectivement, comme vous l'avez dit, que la justice n'avait pas répondu à leurs légitimes questions, puisque les causes de l'explosion n'avaient pas été déterminées, l'affaire ayant été clôturée par un non-lieu qui a été confirmé en appel en 95. J'ai donc rapidement rencontré ces familles et je dois dire que je suis resté impressionné par ce que j'entendais venant de parents qui avaient perdu leurs enfants dans des conditions effroyables et qui parlaient sans haine et sans colère. C'est leur récit qui m'a déterminé à enquêter sur cette catastrophe.
Et ces témoins, parmi ces témoins, certains n'ont même pas été interrogés par la justice.
Oui, effectivement. Alors c'est ce qui m'a interpellé au départ. Bon, j'ai publié Blessures de guerre après 4 ans d'enquête. Mmh. Alors bien sûr, de nombreux intervenants avaient pris leur retraite, d'autres avaient disparu. J'ai donc rencontré des anciens responsables, anciens magistrats, anciens policiers, anciens employés de mairie. J'ai entendu en tout plus de 80 personnes. J'ai consulté des centaines d'archives et je me suis vite rendu compte qu'effectivement, un grand nombre de personnes n'avaient jamais été entendues par la justice, alors que certaines l'avaient sollicité, parfois par écrit, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à leur demande, et notamment, bien entendu, celle dont le témoignage allait à l'encontre de la thèse officielle.
Alors je rappelle que votre contre-enquête est intitulée « Blessures de guerre », mais c'est pas innocent, évidemment.
C'est ça.
C'est pas innocent.
Oui, hein, oui donc, c'est pas innocent, ce sont les blessures de Wulfranderman, notamment.
Alors, quand vous confrontez pour votre enquête les autorités de l'époque aux incohérences de cette piste du gaz, cette fameuse piste du gaz, comment réagissent-elles ?
Alors, j'ai d'abord été, comme vous l'avez dit, j'ai d'abord été saisi par l'inconsistance de l'enquête. Moi, j'appelle ça un déni judiciaire, c'est un désastre judiciaire. Un juge qui ne se déplace même pas sur les lieux, un parquet qui n'ouvre pas l'information judiciaire, une police qui est un peu désorganisée malgré sa bonne volonté, un expert effectivement qui se rend sur les lieux le surlendemain, un autre qui n'arrive que 4 mois après, et au fur et à mesure que j'avançais, je me heurtais à des incohérences, à des errements, voire des fautes. Mais des fautes importantes et graves. Ensuite, j'ai été surpris par l'unanimité des réponses qui concernaient cette piste du gaz, qui était, disait-on, liée à un suicide, vous l'avez dit, puisque vous l'avez bien noté, les témoins qui se trouvaient à proximité n'ont jamais senti d'odeur de gaz, mais surtout les professionnels, les sauveteurs, les employés GDF, les pompiers, ont réfuté d'entrée cette hypothèse. En réalité, cette piste du suicide au gaz de la retraitée militaire que vous avez évoquée était monstrueuse. Elle est totalement impossible au regard des témoignages et des éléments techniques indiscutables que j'ai développés dans le livre. Et je pense notamment à un témoignage qui m'a un peu bouleversé, un ancien médecin militaire qui avait connu cette retraitée en Indochine et qui écrit que non seulement Annette Wasserstein ne se serait jamais suicidée au risque d'entraîner des innocents dans la mort, et surtout qu'elle n'aurait jamais ouvert le gaz, parce que les parents de cette dame de 61 ans ont été gazés dans les camps de la mort à Auschwitz. À partir de là, j'ai compris que l'affaire avait été verrouillée et que l'on avait finalement trouvé la coupable idéale.
Bien sûr. On va en venir aux éléments, disons, troublant que le récit relève en partie. Par exemple, la disparition des vêtements. Il est impensable qu'une erreur humaine en soit la cause, comme l'a dit le responsable de la morgue aux parents.
Oui, effectivement, ce qui est troublant, des vêtements ont disparu à l'hôpital, ceux qui appartenaient aux personnes décédées, mais également à d'autres qui appartenaient à des blessés. Ensuite, ces vêtements ont été brûlés sans l'autorisation des familles, et bien entendu, comme vous l'avez dit, la plupart appartenaient aux victimes les plus touchées. Et il faut parler aussi de ce blouson d'une victime décédée que les familles, c'est Jacques Baille et son épouse, retrouvent dans les gravats. Ce sont des bons citoyens, ils le rapportent aux enquêteurs, mais voilà, personne ne retrouvera jamais ce blouson, il disparaîtra. Alors, comme vous l'avez dit, il faut savoir que les rapports médico-légaux constatent que certains vêtements étaient sectionnés, c'est le terme employé par les légistes. Des témoins également ont vu des vêtements troués. Or, on sait que les vêtements servent de réceptacle. Ils peuvent porter des traces, et donc on a fait purement et simplement disparaître ces vêtements. De la même façon, les dépôts pulvérulents, c'est le terme employé par les légistes, c'est-à-dire les dépôts de poudre que constatent les légistes sur les corps, n'ont pas été prélevés, donc ils n'ont pas été analysés. Et j'ai aussi rencontré ce témoin qui m'a raconté que la deuxième nuit qui a suivi l'explosion, des inconnus sont venus vers 2h du matin visiter les corps déposés en mairie. Ce n'étaient pas des légistes, qui n'ont été désignés que le lendemain, pas plus que les familles, puisque ces inconnus ont soulevé les draps, ont examiné les corps en les manipulant. On ne peut pas douter de ce témoignage, ouais. puisque c'est un policier, c'est un ancien policier municipal.
Mais qui
là
sont
encore,
ces...
difficile de parler d'erreur.
Qui sont ces hommes? Des services secrets?
Ah ben ça, on n'en sait rien.
Oui, je veux bien,
on
sait rien, à votre avis.
Ah ben voilà, bien sûr. Vous avez évoqué à juste titre le problème de disparition des vêtements. Bon, vu Framderman, il a suivi tout ça de près. Effectivement, des gens sont venus dans la nuit à l'hôpital, et je pense qu'ensuite ils sont passés à la mairie. Et ce qui est quand même inquiétant, c'est de savoir que ces gens-là, comme on en parlera tout à l'heure, ont passé sans le cordon de police, sans avoir été inquiétés. Donc ils savaient où ils allaient, et personne ne leur a rien demandé.
Ah oui. Alors il y a l'enlèvement et la disparition des gravats. Aussi.
Voilà, alors, vous l'avez souligné, et c'est évident, l'urgence était de dégager rapidement les gravats pour retrouver les victimes vivantes éventuellement, puisqu'on ne savait pas combien de personnes étaient présentes dans l'immeuble au moment de l'explosion, parce qu'il s'agit bien d'une explosion, puisque des morceaux de fenêtres ont volté dans les rues. Et en revanche, effectivement, on a déversé ces gravats sur un terrain éloigné, la décharge dite des Bonnes Herbes, alors qu'on pouvait les déposer plus près sur le site de Lagoubran. Et il faut savoir, comme vous l'avez dit, que cette décharge des Bonnes Herbes appartenait en partie à l'armée. Elle servait de champ de tir aux policiers qui venaient s'y entraîner. Et en 2010, on pouvait encore voir à l'entrée un panneau « Champ de tir, limite dangereuse ». En fait, on y a transporté ces gravats pour une raison évidente. Sur le site de Lagoubran, ils seraient restés épandus sur le sol, alors que dans celui des Bonnes Herbes, ils étaient enfouis dans une vaste excavation, parce que chaque jour, des bâtiments de BTP venaient y déverser leurs gravats, et après quelques jours, ceux de la Maison des Têtes ont été mélangés à d'autres. Oui. Il a été impossible de les identifier. C'est d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ce qu'a indiqué la chimiste du laboratoire de police lorsqu'elle a souhaité les examiner. Donc là aussi, impossible d'évoquer une erreur humaine.
Est-ce qu'il n'y aura pas des photos qui auraient disparu aussi?
Oui, alors... Dans le cadre de cet étouffement d'affaires, hein, comme je dis, les disparitions entrent dans le cadre de cette manipulation. D'abord, les clichés réalisés par le photographe de la mairie ont été retirés des archives de Toulon. Je n'ai trouvé que des coins autocollants, les photos avaient disparu. Ensuite, les pompiers du Var, eux, n'ont pas souhaité me présenter certaines photos prises sur les gravats. Et comme celles-ci n'avaient pas été inventoriées, impossible de savoir ce qu'elles représentaient. Ensuite, celle réalisée par le photographe militaire, qui est resté un jour et demi sur les lieux. On se demande pourquoi l'armée a envoyé un photographe sur les lieux alors que c'était une catastrophe civile, n'ont jamais été retrouvées à la suite de ma demande. On m'a dit, elles sont pas là, elles sont perdues, etc. Autre disparition, l'album photo réalisé par la police judiciaire a disparu du dossier également. Ouais. Et pour conclure, en juin 89, la justice demande aux journaux locaux et aux journaux nationaux, de leur communiquer les clichés effectués sur les gravats par les photographes de presse. Ceux-ci sont réunis, ils sont transmis à la justice, et personne ne les retrouvera jamais. Là encore, personne ne peut sérieusement prétendre que cette accumulation de disparitions est involontaire et découle du hasard.
L'impression globale que ça donne tout ça, c'est qu'il y aurait eu derrière les équipes de secours comme une équipe fantôme de nettoyeurs. Si ces gens-là ne travaillent pas pour l'État, on se demande pour qui ils travaillent.
Oui, c'est tout à fait correct de dire ça. On se retrouve face à un faisceau d'indices qui laisse présumer qu'une manipulation a été mise en place dans le seul but de faire disparaître les preuves, ce qui est très grave, c'est un délit. Et on dispose d'autres éléments, d'autres témoignages qui appuient cette hypothèse. Je les ai largement développés dans Blessures de guerre.
France Inter. Affaires sensibles.
Max Lanet, on arrive maintenant à l'hypothèse la plus plausible, la plus probable. Et d'ailleurs, si votre contre-enquête s'appelle blessure de guerre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes donc là, manifestement, face à une erreur de tir militaire, ce qu'on appelle une bavure, hein, dès lors qu'il s'agit des militaires ou des policiers. Alors, bien sûr, je rappelle que des manœuvres franco-américaines se sont terminées justement la veille de l'explosion. Alors allons-y sur cette hypothèse.
Oui, alors moi j'ai développé cette hypothèse après l'épisode. Vous avez parlé de nettoyeur, c'est un joli terme. Effectivement, il y a même un film que j'ai récupéré par hasard, des gens qui vont sur les gravats. On l'évoquera si vous voulez. Alors ces manœuvres finies, effectivement, se sont déroulées la semaine précédente, mais elles ne consistaient en réalité qu'à des essais de débarquement de troupes dans le sud de la Corse. Néanmoins, effectivement, des bâtiments étrangers évoluaient au large de Cannes. Je les ai identifiés. identifiés. Et il n'est pas impossible, effectivement, qu'un engin soit parti par erreur au moment où un de ces bâtiments a quitté les eaux territoriales et s'est donc réarmé.
Alors, on va y revenir, mais vous me disiez tout à l'heure que l'existence, vous évoquiez l'existence d'un film où on voit de curieux personnages en train d'arpenter les décombres.
Oui, alors ça, c'est à mon avis l'épisode le plus emblématique de cette manipulation. C'est à partir de là que j'ai compris que l'affaire avait été étouffée et qu'on était en présence effectivement d'une grande manipulation. Alors qu'est-ce qui se passe ? Une heure après l'explosion, sur ce film que j'ai récupéré par erreur, c'est un, enfin, par chance, c'est un film en Super 8 réalisé par un photographe. Une heure après l'explosion, on voit 6 hommes qui montent en file indienne sur le tas de gravats. Ils ont les cheveux courts, ils ne parlent à personne et ils portent des mallettes. Personne ne les a reconnus lorsque j'ai présenté ces photos. Ce ne sont pas des pompiers, ni des médecins, ni des gens de GDF, ni des policiers, ni des employés de mairie, ni de journalistes. Et pourtant, eux aussi, ils ont franchi sans problème le cordon de policiers. Qui sont-ils et que contiennent ces mallettes ? Quelques minutes plus tard, ils ont disparu de l'image. Ils sont donc entrés dans la partie de la Maison des Têtes qui est encore debout. Or, au même moment, une évacuation du secteur est ordonnée à la suite d'une odeur de gaz que l'on vient de détecter. Sauf que, et vous l'avez dit, le gaz a été coupé dans le quartier 5 minutes après l'explosion. Oui. En réalité, ce qu'on a voulu, c'est que ces inconnus ne puissent pas être repérés dans leur mission.
Alors, ce serait donc un tir de missile français ou américain, puisqu'on a des manœuvres franco-américaines. C'est plutôt un engin américain pour vous ?
Alors, je me suis posé la question, normalement, les navires, les bâtiments français qui se trouvent dans le port ne sont pas armés, justement, pour éviter les problèmes. Donc, si un missile est parti, il est parti de très loin, il est parti en dehors des eaux territoriales françaises. Et donc, on a cherché, bien entendu, à étouffer l'affaire. Mmh. Imaginez la population toulonnaise, si on leur avait expliqué qu'un engin étranger ou français était parti et avait touché un immeuble dans lequel se trouvait une trentaine de personnes.
Bien sûr. Dernière chose, est-ce que les familles des victimes sont aujourd'hui encore déterminées à connaître la vérité ou est-ce qu'elles ont fini par baisser les bras face à ce qu'elles ressentent, à juste titre apparemment, comme une raison d'État ?
Si la France est responsable, personne ne l'admettra jamais. La France veille sur ses secrets, elle use et abuse du secret défense. Même chose s'il s'agit d'un engin étranger, la diplomatie garde ses secrets. Lorsque j'ai demandé par exemple aux archives militaires la consultation de certains documents, on me les a tous refusés, alors qu'ils n'étaient même pas classifiés confidentiels défense. Vous savez, dans ce parcours, lorsqu'on donne un coup de pied dans la fourmilière, il faut s'attendre à ce que les fourmis se défendent. Mmh. Et je crains que l'on ne connaisse jamais la vérité sur ce drame, comme dans tant d'autres d'ailleurs. La liste des affaires bloquées par le secret défense est longue. Malheureusement, la raison d'État est plus forte. Et une fois de plus, le mensonge est érigé en principe institutionnel. Et c'est bien dommage.
Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Max Clanet. Au revoir.
Mais je vous en prie.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'explosion de la Maison des Têtes à Toulon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Wagon.